Loup. À la une, cette grève qui plane dans la fonction publique territoriale. On s'intéresse aussi à la filière de démantèlement des épaves de bateaux et on termine par ses recherches sur l'impact environnemental de la perliculture. Le journal de midi, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
Ça y est, le nouveau préavis de grève de la Frappe est tombé.
Après 5 jours de grève, début décembre, la Frappe est prête à lancer un nouveau mouvement en ce début d'année. Le syndicat de Jean-Paul Ourima, premier dans la fonction publique territoriale, a déposé un préavis pour le 14 janvier. Le syndicat veut obtenir ce qu'il assure avoir négocié avec le gouvernement lors du protocole de fin de grève en décembre, à savoir, dit le préavis, l'engagement ferme pris par le président, confirmé par voie de presse, visant à valoriser l'indice des agents fonctionnaires de catégorie D à partir du premier échelon de chaque grade de 20 points. Fin de citation. Ce projet qui concerne 1856 agents est chiffré à 377 millions de francs par la Frappe. Mais le 23 décembre, le Conseil supérieur de la fonction publique en avait voté un autre avec les voix de la CSTPFO et Atiaï Moua qui proposait une revalorisation de 5 points, ce qui avait provoqué la colère de la Frappe qui a tout de même attendu avant de poser son préavis. On écoute Jean-Paul Ourima.
Nous avons quand même tenu notre parole. Nous avons dit qu'il y aura une trêve des confiseurs à l'issue du protocole d'accord de fin de conflit. Et maintenant, on est obligé de recadrer de nouveau les choses et dire au gouvernement qu'il faut vraiment tenir parole.
Et en plus de la revalorisation des catégories D, le syndicat demande la mise en œuvre d'un calendrier en 2025 concernant la revalorisation des grilles indiciaires des autres catégories. Il demande aussi sa revendication à l'origine du mouvement début décembre, à savoir la revalorisation du point d'indice salarial des fonctionnaires dans le cadre des négociations prévues avec les organisations syndicales en mars 2024. En cas d'échec des négociations, la grève sera donc effective le 14 janvier à minuit. Si le mouvement devrait encore une fois être suivi chez les pompiers d'aérodrome, le calendrier épargne les vols retour des élèves pour la rentrée scolaire, ce qui n'empêchera pas la grève d'avoir un certain impact puisque d'autres services sont concernés. Écoutez Gérard Barf, secrétaire général adjoint de la Frappe.
Ça va impacter, hein. Il y aura sûrement des annulations. L'impact après, c'est les autres services, je prends la biosécurité, ce sont les produits. Il faut qu'ils viennent vérifier, donner le cachet pour sortir les produits, les marchandises, des conteneurs, que ce soit les bateaux ou les avions. Au permis, les cartes grises, la circulation au niveau de l'équipement, parce qu'il faut toujours, en fonction des horaires, changer les trois voies en deux voies, des choses comme ça. Ça aussi, ça va être activé. La circulation va être plus dure. Il y aura plus de bouchons, quoi.
Et le timing risque toutefois d'être serré pour les négociations, puisque le président Moët et Brotherson doit se rendre à Paris à partir du 11 janvier.
On revient sur l'incident du week-end dernier à la tour de contrôle.
Dans la nuit de vendredi à samedi, le service du contrôle aérien de Tahiti FAA a été interrompu durant 3 heures, provoquant un retard important au départ d'un vol ATN. Un événement exceptionnel, assure le directeur de la navigation aérienne Gilles Perbost du CEAC, dû à l'absence notifiée tardivement d'un des 4 contrôleurs qui se relaient à la tour de contrôle par période de 8 heures. Ce soir-là, les contrôleurs présents ont pu assurer le départ et l'arrivée de 6 vols sur les 7 prévus. Alors il est exact que ce service, qui compte normalement 35 contrôleurs aériens, est actuellement sous effectif. Mais Gilles Perbos souligne que 27 recrutements ont été effectués depuis 2020 et 12 nouvelles recrues seront opérationnelles d'ici à la fin de l'année. 8 qui terminent actuellement leur formation pratique de 15 mois et 4 transferts. On écoute Gilles Perbos.
On est un petit peu en dessous de l'effectif nominal actuellement. Aujourd'hui, on a quelques difficultés de ressources humaines parce qu'on a eu des départs anticipés de contrôleurs à d'autres affectations. Est-ce que ça peut se reproduire dans les 6 mois qui arrivent ? Ça peut potentiellement arriver, c'est rare, parce qu'on a toujours des contrôleurs qui sont très professionnels et que par conséquent, quand on fait appel à des volontaires pour dire ben voilà, on a un petit souci dans 2 jours, dans 3 jours, est-ce que quelqu'un peut être volontaire ? Et puis on trouve toujours quelqu'un qui est volontaire pour le faire.
Voilà, et le service d'État de l'aviation civile travaille avec les compagnies aériennes et ADT qui sont conscients que d'ici l'arrivée des renforts, d'autres perturbations sont donc encore possibles.
Cette question désormais, Valdemar, est-ce la fin des épaves, des vieux bateaux de pêche et des anciens navires de plaisance qui polluent le port de Papeete ?
Selon les derniers recensements, le port autonome abrite une 50aine de navires abandonnés ou en fin de vie, mais la filière de déconstruction se met en place, selon Stéphane Pérez, président du cluster maritime de Polynésie et PDG du chantier naval du Pacifique.
La filière se met en place, le tissu industriel local existe, il est structuré, il a la compétence locale à la fois pour la partie déconstruction, la partie dépollution et la partie traitement des déchets, que ça soit en local ou en export vers la Nouvelle-Zélande. Maintenant, les problématiques qui restent encore à lever sur certains dossiers sont un problème de foncier. où on effectue ces opérations de dépollution, démantèlement et recyclage des déchets, et un problème de financement, puisqu'effectivement, il faut bien trouver quelqu'un qui paye pour déconstruire ces bateaux.
Et en début d'année, la société Chantier Naval du Pacifique, en partenariat avec Enviropol, a remporté l'appel d'offres du port autonome pour démanteler et recycler l'Oiseau des Îles. Les deux sociétés, toujours en groupement, ont aussi répondu à un avis d'appel à la concurrence du port qui porte sur la décomposition de 5 lots de bateaux et de déchets des pontons. Elles comptent aller plus loin, notamment Enviropol qui monte Ecopol, un centre de démantèlement métallique, dédié plus particulièrement à des navires hors d'usage dont l'investissement s'élève à 850 millions de francs. Un terrain de 5 hectares a été identifié à Tarabas. Ecopol pourrait débuter l'exploitation fin 2026 et ainsi créer une trentaine d'emplois.
Environnement toujours, on s'intéresse aux déchets plastiques dans la perliculture.
Oui, la deuxième ressource propre du fénois est-elle aussi une menace pour les écosystèmes marins? Maëva Goulet, doctorante de 30 ans, a consacré 4 ans de recherche à cette question. Dans sa thèse, elle examine l'impact des plastiques perlicoles sur les lagons et propose des pistes pour rendre cette activité plus durable. Elle a mené plusieurs expériences, notamment sur 4 atolls des Tuamotu, Takapoto et Takaroa, où la perliculture est bien implantée, ainsi que sur Tikeho et Ana, 2 atolls peu ou pas concernés par l'activité. L'un des volets de ses recherches portait sur la croissance des huîtres perlières. Ces dernières ont donc été réparties en plusieurs lots et immergées sur chaque atoll pendant 6 mois. Et en analysant la quantité de plastique présente dans les huîtres et dans l'eau, un résultat inattendu est apparu.
Ça nous paraissait bizarre, au départ on ne pensait pas avoir ce résultat. Donc en gros, on avait effectivement des huîtres qui n'avaient pas la même croissance, mais elles contenaient la même, on va dire, quantité de plastique. Donc on a essayé de creuser un petit peu plus loin et on a remarqué que plus l'huître contenait des fibres de cellulose, moins sa croissance était importante. Et en fait, cette cellulose-là, elle peut être naturelle, parce qu'on sait, par exemple, dans les Tuamotu, il y a beaucoup de cocoteraies, donc là, on ne peut rien y faire. Mais il y a aussi un gros apport anthropique, donc qui vient des hommes, et qui pourrait être dû au rejet des eaux usées, notamment des eaux de machines à laver dans le lagon.
Maëva Goulet, qui s'est également intéressée aux effets biologiques des plastiques perlicoles sur d'autres espèces marines. Elle a par exemple observé le développement des œufs de 5 espèces et les résultats sont clairs, certaines larves présentent des anomalies ou des retards de développement. La doctorante insiste donc sur la nécessité d'identifier les additifs chimiques les plus toxiques parmi ceux utilisés dans les collecteurs et cordes de perliculture.
Il y en a qui sont sûrement inoffensifs, mais il y en a qui doivent être très toxiques. Donc l'intérêt, ce serait maintenant d'identifier les composés toxiques et idéalement d'en interdire l'utilisation pour des matériaux qui sont voués à finir dans l'eau, en fait. Donc déjà, ça, ce serait un gros pas de pouvoir vraiment limiter, réglementer les additifs utilisés dans les matériaux plastiques, perlicoles, aquacoles.
Enfin, un autre volet de cette thèse explore les effets biologiques des déchets plastiques sur les lagons et leur impact sur les bactéries.
Les bactéries, c'est extrêmement important pour les écosystèmes marins, mais c'est vrai qu'on en prend rarement conscience parce que c'est invisible, c'est un petit peu le compartiment oublié, mais c'est extrêmement important. Du coup, on a voulu voir ça, donc on a suivi pendant 2 mois toutes les bactéries que tu avais dans les aquariums et on s'est rendu compte que dans l'aquarium qui était très pollué en plastique, il y a des bactéries qui étaient favorisées. Et on a vu que dans la littérature, certaines de ces espèces pouvaient être pathogènes.
Maëva Goulet appelle donc à des actions prioritaires qui doivent venir des pouvoirs publics. Pour la doctorante, il est urgent de réglementer l'importation et l'utilisation des plastiques perlicoles en contrôlant leur composition chimique. Il faudrait aussi réduire les quotas actuels qu'elle juge extrêmement élevés, mais aussi mettre en place des campagnes systématiques de récupération et de traitement des déchets issus de la filière. C'est la fin de cette édition de la mi-journée. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Le prochain point avec l'actualité locale, ce sera le flash de 16h.
Merci Valdemar pour ce journal. Maintenant, c'est votre météo sur Radio.